Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le. Une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
L'homme court sur pattes, voûté comme s'il portait ses malheurs, ours des cavernes plutôt que gentilhomme, est arrivé de nulle part en fin d'automne. Il s'est installé en limite de la commune, dans une masure à toiture fuyarde dont les volets ne ferment plus depuis longtemps. Rapidement, des rumeurs circulent. Citadin ruiné, ancien prisonnier, pauvre bougre atteint d'une maladie honteuse, original à social. Sans délai, l'étrange étranger est appelé Trange. Les habitants, méfiants, le laissent vagabonder, lui mettent volontiers sur le dos quelque chapardage inexpliqué, sans pour autant l'incriminer formellement. Trange devient aussi le faire-valoir des bien-pensants, l'exemple à ne pas suivre que l'on désigne aux enfants désobéissants ou peu courageux. Tout l'hiver, Trange vivote de ses très modestes pêches qu'il s'efforce de brader dans un coin isolé du marché. Mais au printemps, l'évolution en qualité et quantité de ses poissons s'améliore et il se voit obligé d'installer pour sa vente un étal digne de ce nom. La rumeur, montée, relayée et alimentée par les femmes de pêcheurs qui houspillent leur bon à rien de mari, laisse imaginer un pacte avec une bête sacrée qui guide Trange vers les meilleurs emplacements de l'estuaire. Trange, qui maintenant marche droit et fier, dépense sans trop compter, rénove son habitation. Il achète une barque neuve qu'il peint de la même couleur que ses volets neufs, comme le veut la coutume locale. Il baptise la barque « Réussite », ce qui fouette les commentaires et suspicions. Un matin d'été, Trange, devant son étal, est accompagné d'une ravissante jeune femme, avenante, souriante. De grands cheveux bruns, des vêtements modernes et colorés, une voix douce et persuasive. Personne ne la connaît. On ne sait pas d'où elle vient. Elle accompagne Trange partout, même au café du village dans lequel le couple est désormais chaleureusement accueilli. Trangette fait rêver les hommes, mais réveille les jalouses qui prédisent d'une seule voix une fin rapide. L'argent attire l'amour, et sans argent... Les femmes de pêcheurs lancent le boycott de l'étal du nouveau couple, sans succès. Aubergistes et restaurateurs régionaux privilégient qualité et prix raisonnables, accueil et sourire de Trangette font le reste. À l'automne, Trange se rend compte que souvent, lors des ventes et transactions, ses clients l'interrogent, lui demandent conseils et avis, techniques et lieux de pêche, gestion d'un différend entre voisins, vie locale. Un matin, une personnalité influente vient lui demander avis sur une difficulté rencontrée en gestion communale. « Mais pourquoi vous adressez-vous à moi ?» questionna Trange. « C'est simple. Un homme comme vous qui affiche la réussite et est aimé d'une telle femme est un exemple pour nous tous. » Désormais, l'ancien montré du doigt devient influent, au courant de tout, ragots secrets, conflits, projets. Lors de la fête du village, la place du couple Trange est réservée au milieu des élus et notables. Il ne s'est pas présenté. Le maire a mené enquête. Il a découvert Trange dans son lit, endormi pour toujours et de façon naturelle. Quant à la Trangette, elle avait disparu sans laisser aucune trace dans l'habitation. Bien sûr, chacun a émis ses hypothèses. La meilleure est sans doute celle d'une vieille femme, un peu voyante, qui notait tout sur un respectable cahier noir. Elle a fait remarquer que Trange s'était endormi 3 ans, jour pour jour, après son arrivée. Que Trangette a disparu 2 ans, jour pour jour, après sa première apparition. Elle a donc conclu un pacte diabolique qui offrait aux Trange argent, bonheur, pouvoir. Trange n'a sans doute pas rempli sa part du pacte au bout des 3 ans. Il a été puni.
Drôle de pop. Pour ceux qui croient que mes potes et moi, on ne voulait pas se cultiver. Nous allions souvent à la médiathèque. On disait alors la bibliothèque. Bon, c'est vrai, on y allait avec un peu de pression, les parents, les profs. Finalement, c'était pas mal. On lisait Best, France Foot, Rock and Folk. L'ordre n'avait pas trop d'importance. Disons en fonction de l'actualité. Soit un transfert d'un célèbre footeux, soit la sortie d'un disque de nos groupes favoris. Nos profs nous reprochaient souvent de ne pas lire les classiques, Hugo, Zola, Balzac et compagnie. Nous aimions bien particulièrement Le Compagnie, dont il faut l'avouer, nous n'avions jamais entendu parler, à part peut-être un groupe appelé Bad Company, mais nous n'étions pas vraiment certains qu'il s'agissait de ce dont il parlait. Combien de fois, sans mentir, on a voulu feuilleter ces classiques? Mais c'était toujours l'heure de la fermeture. Et la bibliothécaire, rien à faire. 19h, pétante, elle fermait. Nous, parfois, il nous est arrivé d'insister. Un beau jour, qui sait qu'on croise, notre prof de français. Un mec sympa, mais classique et compagnie, bien sûr. Oui, rock and folk, France Foot et Best, super les gars. Le sourire aux lèvres et même un peu plus de nous dire... Les garçons, vous avez des lectures éclectiques. Après un moment d'hésitation, à plusieurs en vérité, on a vraiment senti que c'était un compliment. Mich et moi, enfin surtout moi, nous avions compris le sens du mot. On a regardé après dans le dico quand même. Nous l'avons donc remercié. Par contre, Gilou, il avait compris électrique. De toute façon, éclectique, il ne connaissait pas. « Mais non, les gars !» avec dans l'intonation suffisamment pour nous faire comprendre notre ignorance. « Éclectique, ça n'existe pas, c'est électrique. Électrique. » Électrique, je crois que rien n'aurait pu lui faire plus plaisir. Et la cote du prof était remontée, mais alors... Du coup, Gilou, ne voulant pas ternir notre nouvelle réputation, à chaque cours de français, il en faisait des caisses. À l'entrée de la classe, le plus visiblement possible, face au prof, il agitait les cheveux, hirsute bien entendu, la bouche sortait une langue de serpent, ses yeux roulaient, se voulant sataniques, le doigt vengeur. Électrique, électrique. Fallait voir la tête du prof, qui mélangeait un sourire timide et un regard d'une incompréhension totale, genre 10 000 points d'interrogation au-dessus de la tête, façon BD. Genre, ils sont tous pas mal les gaillards. Mais lui, c'est un best-of à chaque fois. Il suivait Gilou, qui se trémoussait, regagnant sa place, en grondant, even an L, tel un Joe Cooker épileptique. Il se demandait aussi quel sort allait être réservé à son explication de texte sur le lac d'un certain Lamartine, si mes souvenirs sont exacts. Mais sûrement pas, comme le pensait Gilou, une voisine de classe, Lamartine, qu'il jugeait d'ailleurs aussi trop classique, pas assez rock'n'roll.
Le cours pouvait alors commencer, et déjà, n'attendions plus que la sonnerie qui allait nous libérer.
Dodo, l'enfant d'eau. Petit Paul est fiévreux. Ce soir, sa maman est à ses côtés. Elle le borde tendrement. Il susote son doudou guenille. La veilleuse distille une douce lumière bleutée qui tournoie doucement et projette une constellation au plafond. Paul est dans la période des pourquoi. Il les enchaîne avec une insatiable curiosité. « Dis, maman, pourquoi la mer est salée ? Dis, maman, pourquoi la terre est ronde ? Dis, maman, pourquoi mamie pique quand on l'embrasse ? Dis, maman, pourquoi les canards ont-ils des plumes ? Dis, maman, pourquoi le Nutella est mou ? Pourquoi les chats miaulent-ils ? Pourquoi les nuages ne tombent pas ? Dis, maman, pourquoi les vaches donnent-elles du lait ? Dis, maman, pourquoi la terre est bleue comme une orange ? Mon petit Paul, pourquoi dit-on bête comme ses pieds ? Pourquoi les bateaux n'ont-ils pas de jambes ? Sinon, ils marcheraient, mon gros bêta. » Ce soir, en y pensant, sa maman se remémore une chanson qu'elle chantait à tue-tête en colo avec les monos lors de bivouac alors que les brochettes de chamallow grillaient. Manu à la guitare. Pourquoi les oiseaux chantent dans les forêts profondes ? Ce qu'ils disent doit être beau, mais on y comprend mot. Pourquoi les ruisseaux coulent dans les plaines jusqu'à l'océan pour former des moutons blancs ? Pourquoi si, pourquoi ça ? Ne le demandez pas, allez y voir vous-même. Allongez le pas et vous saurez pourquoi. Mais si, Paul, il faut le demander, il faut poser des questions. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Non, non, non. Et puis, il faudra aller voir, allonger le pas, comme ils disent, et chercher tout le temps. Alors que d'habitude, elle chantonne des berceuses traditionnelles, elle fredonne cet hymne à la nature. Petit Paul ronflotte, sa maman veille. Elle pose la main tendrement sur son front, la fièvre est tombée. Elle n'est plus inquiète pour petit Paul. C'était juste à l'arrivée de l'hiver une petite grippette attrapée à l'école. La maîtresse avait placé plein de coups de fil aux parents. Toute la première rangée dans sa classe était rentrée de la cantine, tout sautant, le front brûlant. Le fond de sa classe s'était transformé en hôpital de campagne. Sa maman était allée le chercher. Depuis quelque temps, elle avait du temps pour elle. Une brise fraîche faisait flotter son foulard chatoyant. Sur le chemin du retour, petit Paul, pourtant patraque, avait continué sa litanie de pourquoi. Sa maman était moins agacée que d'habitude et lui répondait cette fois en faisant à chaque fois mine de réfléchir. De froncer les sourcils, puis d'un air savant et réfléchi, elle répondait « Et pourquoi pas ?»« Dis maman, pourquoi les balles de tennis sont-elles jaunes ?»« Et pourquoi pas, mon petit lapin ?»« Dis maman, pourquoi les feuilles sont-elles vertes ?»« Et pourquoi pas, mon petit chat ?»« Dis maman, pourquoi la guerre ?» Là, mon petit Paul, je ne vais pas pouvoir te répondre. Elle se rappelait à présent l'inscription Y sous la terrible image de ce soldat qui tombe à genoux, les bras en croix sous le feu des mitrailles. Le pourquoi du comment commence à ta naissance, mon tout petit haut. Tu sais, l'univers, c'est comme un grand loto. Tant qu'il te restera des cartes dans la pioche, t'inquiète, tu pourras y arriver. Tu chercheras toute ta vie, tu n'auras jamais fini, tu verras. C'est terrible, c'est chouette aussi. Tu te casseras parfois la margoulette, mais t'inquiète, tu te relèveras. Et tu continueras même à cloche-pied, mon escargot, promis. Petit Paul dort profondément. Sa maman, pourtant si brave, sanglote. Elle a le cœur lourd, comme une pierre. Sa poitrine se serre malgré le vide. Elle dénoue son foulard autour de sa tête livide, de son crâne si lisse. Mon petit terrien en détresse, pourquoi je ris, pourquoi je pleure, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, ça... Je ne pourrais pas te répondre non plus, mon petit Paul.
Au revoir Marrakech. Je n'irai plus à Marrakech. Tu attends mon retour et je ne reviendrai pas. Le soleil m'a transpercé les yeux, mes vêtements sont légers et doux. Je connais le ciel bleu de Marrakech et je sais que je ne te verrai plus. Souvent, je t'imagine, les images sont faciles. Reine des sables ou déesse enivrante, tes longs cheveux épais naissant au détour d'une dune. Mais je ne reviendrai pas. Quelle image retenir ? Ta main ajustant une mèche de cheveux, Ce verre de thé à la menthe que tu portes à tes lèvres avec précaution de peur de te brûler, ce soupir à la vue d'un nuage éphémère. Je suis monté dans l'avion et je te devine allongé dans ta chambre. Tu as posé tes mains sur le mur ocre du rempart de la Médina. Tu as laissé ton dos s'appuyer dessus, tes yeux m'ont souri, ton visage était pâle. J'ai su. Nous étions en fin d'après-midi, sa douce chaleur flottait autour de nous. J'ai su qu'il me fallait te dire mon départ pour Paris, juste pour 2 ou 3 jours. Tu t'es mise en colère, mais je t'ai promis qu'à l'issue de ceci, je serai de nouveau près de toi sous ce ciel de Marrakech. Tu as laissé un soupir s'échapper, et de nouveau, j'ai lu la confiance dans tes yeux. Tu es jeune, trop jeune pour ces cernes sous les yeux, ce teint diaphragme, ce regard décomposé. Je t'aime tant. Je connais le ciel gris de Paris, nous l'avons fui ensemble, après nous y être aimés. 22 septembre, je n'oublierai jamais la date. La journée commençait comme l'hésitation d'un sourire, une légère fraîcheur, un frisson et un café brûlant dans les mains. Nous avions froid. J'ai posé ma tasse, tu as posé ton livre, je me suis levé et j'ai serré tes mains gelées entre les miennes. Nous n'avons pas prononcé un mot. Nous attendions cet instant, ce moment où la lassitude du froid, de la brume et de l'humidité nous emporterait ailleurs. Nous nous sommes retrouvés à Orly. Tu rêvais de Marrakech, je rêvais de te suivre. Tu rêvais d'un ciel bleu, je rêvais de la chaleur de ton corps. Tu rêvais de vivre, je rêvais de t'aider à vivre. Nous avions juste une petite valise, des lunettes de soleil, un peu d'argent pour se vêtir, se nourrir et se loger, le temps d'une semaine ou de 3 mois. Et puis Marrakech nous a engloutis. Les chars rôdaient autour de nous, le pelage terne, les côtes saillantes, trop nombreux, en bas des porches. Les premiers jours, nous étions lumineux, touristes parmi les touristes. Nous retournions nos poches pour faire comprendre que nous n'achèterions rien. Le rouge revenait sur tes lèvres et tes joues. Je marchais fier à tes côtés, te tenant la main. Le soleil ne change rien, tu flottes dans les ruelles. Tes épaules se perdent au milieu de la foule, ta silhouette s'efface entre une moto et un mulet. Seul le reflet des étals te redonne de la couleur. Chaque jour, cependant, nous nous émerveillons. Nous rions. Paris semble loin et nous nous enlaçons. Mais nous savons, l'un et l'autre, que ce n'est qu'une pause. Parfois, la destination d'un car te faisait rêver et nous montions dedans. Il pouvait rouler plusieurs heures au gré des étapes, nos voisins changeaient, le plus souvent chargés de ballots, mais jamais nous ne descendions. Tu te confondais dans le paysage et le soir, nous revenions, tu dormais la tête posée sur mon épaule. J'étais heureux ainsi, les nuits étaient noires, je fermais les yeux et lorsque je me réveillais, je vérifiais que tu dormais toujours. Aimer à en mourir, dit la chanson. Mais je ne veux ni mourir, ni m'éteindre, alors je te laisse. Je veux garder en moi notre temps passé ensemble, nos insouciances, nos oublis, nos secrets envolés, notre arrogance, nos découvertes, nos interrogations sur l'amour. Je veux conserver tes surprises, tes caresses, les pétales, ton chant, tes parfums, ta respiration. Je te veux toujours entière, unique, réel et imaginé. Je suis jeune aussi, trop jeune pour savoir retenir tes peurs, remettre de l'éclat dans tes yeux, éclairer de nouveau ta peau. Je suis jeune et probablement un peu lâche. Mais est-ce de lâcheté que de vouloir vivre? Éternelle question sans réponse. Dans 1 heure, je vais atterrir à Paris. Son ciel gris m'attend. La tête vide, je te laisse le ciel de Marrakech. Ma vie est devant moi, pas la tienne. J'ai avec moi tes pièces d'identité, tes médicaments qui te sont indispensables, mais qui ne peuvent stopper ta maladie, juste la ralentir, te faire gagner quelques mois, pas plus. Tu vas mourir là-bas. tes draps seront humides, tu tendras les mains, tu me chercheras, tes yeux se fermeront, et je n'assisterai pas à cela. Je ne pourrai le supporter, je t'aime trop. Il me faut attendre près du tapis roulant, repérer ma valise bleue parmi d'autres si semblables. La mienne est peut-être un peu plus claire, je la sens toujours proche. Je ne connaîtrai pas les couleurs du paradis.
Cruelle perte. Deux coups de sonnette. Rachel soupire et quitte son fauteuil posté à la fenêtre d'où elle aime contempler la rue. Voilà Victoire, celle qui est toujours là pour eux. Vous n'avez besoin de rien ? Du pain, des fruits. Je vais à Intermarché profiter de la promo du mercredi. Merci, c'est très aimable, mais j'ai fait des courses hier avec Léo. Il m'a accompagnée en voiture à la galerie commerciale. Quel gentil petit-fils vous avez ! C'est une joie de l'avoir près de vous. Et en plus, c'est un joli garçon. Vous en avez de la chance. C'est bien qu'il n'habite pas loin, surtout en ce moment. La voisine, empêtrée dans son bafouillage, reprend pied après sa pirouette. Il lui semble malvenu de parler de joie, de chance, à quelqu'un en plein deuil. Le récent veuvage de Rachel mérite quelques efforts de langage. C'est vrai, c'est un garçon charmant et dévoué. Un soleil dans ma douleur. En tout cas, n'hésitez pas, moi aussi je suis là pour vous. Il y a 3 semaines, les obsèques de son mari ont rassemblé une foule d'amis. Une crise cardiaque l'a enlevée à cette vie si soudainement qu'elle peine encore à y croire. À la brutalité du malheur a répondu la douceur dont tous l'ont entourée. La copropriété, où le couple avait élu domicile à la retraite de Patrick, souda alors ses membres dans un même élan d'empathie, prodiguant soutien et réconfort à la veuve. En 10 ans, peu de changements avaient eu lieu. Un vieil homme, parti vers un EHPAD proche de ses enfants, fut remplacé par un jeune couple, attendant un heureux événement. L'immeuble avait alors trouvé une nouvelle jeunesse dans les rires et cavalcades des deux bambins. Rachel et Patrick avaient tout de suite adhéré à la conception un peu communautaire mais respectueuse des individualités du petit collectif. Léo a monté le courrier. Depuis le décès, pas un jour sans lettre. Au début, c'était une avalanche de condoléances. Patrick avait eu beaucoup d'activités associatives, sportives, et son boulot l'avait mis en contact avec tant de personnes qu'il n'était pas étonnant de susciter un tel retour. Léo l'a aidé à en faire un recueil dans un porte-vue qu'elle a acheté à la papeterie du centre. Ensuite, ce furent les papiers administratifs imparables. Assurance, caisse de retraite, pompe funèbre. Il en pleuvait tout au long de la semaine à en avoir le tournis. Aujourd'hui, 2 enveloppes seulement. Des photos illustrent la première. Avant même de l'ouvrir, Rachel reconnaît la publicité de Damar dont elle apprécie les vestes légères et chaudes. Pour la deuxième, un logo rose, couteau et fourchette entourant un cœur. Aucun doute, les restos du cœur en campagne. C'est tout. Le temps passant, le courrier reprend une consistance normale. 2 semaines plus tard, dans la cage d'escalier de la maison silencieuse. « Ne vous en faites pas pour le dérangement, Léo m'a prévenu. Il est inévitable de faire un peu de bruit quand on déménage. » Rachel, interloquée, s'arrête sur le palier. La voisine l'attendait-elle tapie derrière sa porte ? C'est à croire, car elle a surgi comme un diable de sa boîte pour l'interpeller. Victoire poursuit. Il m'a dit que vous lui donniez tous vos livres. Il en était tellement heureux que ça faisait plaisir à voir. Pendant, si vous voulez un conseil, n'allez pas trop vite à vous dépouiller de vos biens. Vous pourriez regretter de vous séparer de trop de choses. Rachel pose la poubelle qu'elle vient de vider. L'envie la démange d'envoyer promener la mégère et ses conseils. Elle respire un grand coup avant de répondre. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai toute confiance en mon petit-fils. Et je sais ce que je fais. Bonne soirée, Victoire. A-t-elle été trop sèche dans sa réponse ? Le menton tremblant et les sourcils froncés de la femme ne lui disent rien de bon. Ouvrant sa porte, elle rentre en vitesse. Au fil des jours, la voisine est passée d'une amabilité de bon aloi à une forme de harcèlement dans la sollicitude. Rachel ressent ses interventions comme des intrusions dans son intimité, bien loin de la bienveillance originale. Réfugiée dans son fauteuil, elle sent le danger rôder. Jusqu'à présent, elle a pu compenser l'absence de Patrick avec l'aide précieuse de Léo, bien sûr. Elle sait qu'il admire la bibliothèque que son grand-père adorait à constituer, des ouvrages sur la voile, sur leur voyage. Parce qu'il est des livres dont la valeur sentimentale oblige, Rachel compte garder un atlas sur lequel des repères sont placés aux endroits de leurs escapades autour du monde. Elle aime aussi passer des heures à revisiter les albums photos les illustrant. Cela suffit à sa mémoire. Que Léo se fasse plaisir. Assurer le quotidien administratif est une tâche qu'elle n'a jamais pu faire et pour laquelle aujourd'hui son petit-fils lui est indispensable. La honte dont elle a tant souffert autrefois, cette incapacité qu'elle n'a pas su dépasser malgré l'amour de ses proches, cet illettrisme est son secret et il est totalement exclu que qui que soit le découvre malgré elle.
En pantalon. Les femmes mettent des pantalons maintenant. On aura tout vu. Des femmes en pantalon. Et pourquoi pas des hommes en jupe pendant qu'on y est? Après tout, une jupe, c'est un pantalon à une seule jambe. Ah, attendez. Ça existe, des hommes en jupe. Je ne parle pas des Écossais. Eux, ce sont des kilts qu'ils portent. Mais les évêques, les popes orthodoxes, quelques curés. C'est louche quand même, vous ne trouvez pas? Ou peut-être que ceci explique cela. Ce ne serait pas pour aborder les petites filles ou les petits garçons naïfs en se faisant passer pour une gentille dame? La pédophilie dans l'église, vous en avez entendu parler? Je me demande ce qu'on attend pour... Oui, je sais, vous allez me répondre que le pape a déclaré officiellement « Il faut que ces abus cessent ». Il ne se doutait pas qu'il venait de faire une méchante contrepétrie aussi compromettante qu'un aveu. Le mal est fait de toute façon. Et ce n'est pas en faisant la quête auprès des fidèles pour indemniser les victimes qu'on trouvera la solution. Il faut que le pape donne un grand coup de pied dans cette fourmilière vaticane. Éradiquons les grenouilles de bénitier qui grenouillent trop, à mon avis. Tiens, d'ailleurs, à propos du pape. Belle robe blanche, coupe élégante, la classe, quoi. Mais sa petite calotte, c'est autre chose, un peu mesquine, à peine visible, ambiguë même. Elle ressemble trop à une kippa. Il va falloir choisir son camp, camarade. Il aurait pu porter un vrai chapeau, le pape. Il a les moyens. Blanc, bien sûr, pour rester ton sur ton. Vous voulez que je vous dise? Un homme en jupe, surtout quand on est pape, surtout en robe longue, presque une tenue de soirée. Pourquoi pas, à la rigueur. Mais sans chapeau, sans haut talon, sans sac à main, c'est vraiment une faute de goût.
Vous avez entendu des textes de Dominique, Philippe, Muriel, Yves, Elisabeth, lus par Elisabeth, Philippe, Muriel et Yves.
Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Coate, Michel Frappard et Bernard Sieller. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers d'écriture animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois sur JetFM 91.2 et peut être réécoutée en podcast. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.